Je vous invite à lire ensemble une parabole. Une parabole que Jésus a donnée, une parabole qu'on appelle une parabole du royaume. Parce que ce sont des paraboles qui commencent, où Jésus commence en disant ben, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, il est comme ci, comme ça. Donc, Matthieu 13, verset 24. Mais avant, j'ai avez-vous des oreilles? Il y en a même qui sont appareillées. Parce que si vous avez des oreilles, je vous invite à entendre ce que dit Jésus dans cette parabole. Vous verrez que c'est la conclusion que Jésus en donne. Matthieu 13, verset 24. Jésus vient de donner l'explication de la parabole du semeur. Et Matthieu écrit, donc Jésus leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe. L'ivraie, elle s'appelle cette mauvaise herbe, au milieu du blé, et puis il s'en alla. Quand le blé est poussé et produit des épis, on vit aussi paraître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander : Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ce champ ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ? Il leur répondit : C'est un ennemi qui a fait cela. Alors, les serviteurs demandèrent : Veux-tu que nous arrachions cette mauvaise herbe ? Non, répondit le maître, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur : Enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en bottes pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous la rentrerez dans mon grenier. Et vous le rentrerez dans mon grenier. On va sauter au verset 34 parce que Jésus donne une autre parabole en ce temps. Et au verset 34, il est dit : Jésus enseigna toutes ces choses aux foules en employant des paraboles. Il ne leur parlait pas sans parabole. Ainsi se réalisait la parole du prophète : Je leur parlerai à l'aide de paraboles, je leur annoncerai des secrets cachés depuis la création du monde. Alors, Jésus laissa la foule et il rentra dans la maison. Ses disciples vinrent auprès de lui et lui demandèrent : Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. Il leur répondit : Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume. La mauvaise herbe, ce sont ceux qui suivent le diable. L'ennemi qui a semé les mauvaises graines, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront de son royaume tous ceux qui incitent les autres à pécher et ceux qui font le mal. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. Je ne voudrais pas m'attarder sur la première question qui se pose, pourquoi Jésus parle en parabole, mais enseigne une fois. Je voudrais simplement parler de ce que Marc appelle le royaume des cieux. Pardon, Matthieu. Appelle le royaume des cieux. Matthieu, il est juif. Et en bon juif, en bon hébreu, il n'aime pas prononcer le nom de Dieu, de peur de le souiller. Et pour ça, dans son évangile, il parle souvent du royaume des cieux, alors que Luc, par exemple, dans les mêmes passages, va parler du royaume de Dieu. Mais c'est la même chose. Ne cherchons pas de nuance entre les deux. C'est simplement que Matthieu, culturellement, n'aime pas trop prononcer le nom de Dieu parce qu'il a peur de le souiller. Le royaume de Dieu, c'est quand Dieu règne. C'est quand Jésus règne. Alors, il y a plusieurs aspects de ce royaume. Et les différentes paraboles que Jésus donne nous montrent différents éclairages sur ce royaume. Et c'est parfois un peu difficile de les mettre ensemble parce qu'il y a beaucoup de facettes de ce royaume. Dieu règne. Il règne sur l'univers, mais il règne aussi dans nos cœurs. Il règne dans son Église. Et toutes ces facettes sont un petit peu différentes. Paul a résumé ce que c'est que le royaume de Dieu en disant que ce n'est pas attaché à ce qu'on mange ou à ce qu'on boit, parce que dans l'Église où il à qui il envoyait cette lettre, l'église de Rome, il devait y avoir des personnes qui n'étaient pas à l'aise avec certains aliments et qui voulaient interdire qu'on les consomme et l'interdire à d'autres, même à ceux qui étaient à l'aise avec ça. Et ils leur dit, mais le royaume de Dieu, c'est pas le manger, c'est pas le boire, ça n'a rien à voir. C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors, rentrons un petit peu plus dans cette parabole. Jésus nous en donne l'explication. C'est assez merveilleux parce qu'il y a beaucoup de paraboles où nous n'avons pas d'explication. Il y a quelques-unes où Jésus nous donne les clés. On va s'emparer de ces clés pour faciliter les choses quand même. L'homme qui sème la bonne semence, dit-il, c'est moi. Enfin, c'est moi, c'est Jésus. C'est le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, c'est une périphrase qu'il utilise souvent pour parler de lui-même. Le champ, c'est le monde, l'ennemi, c'est le diable, la bonne semence, le blé, ce sont, alors littéralement, les fils du royaume. Les fils du royaume, c'est une façon très, très hébraïque de parler, ça veut dire les citoyens du royaume. Livrés, ce sont littéralement aussi les fils du méchant. C'est pas le diable n'a pas une nombreuse famille avec des enfants et des petits-enfants. Hein. C'est aussi une façon de parler, c'est ceux qui appartiennent aux méchants. Les moissonneurs, ce sont les anges et la moisson, la fin du monde. Un homme sème du bon grain, cet homme, le fils de l'homme. C'est Jésus lui-même. Et ce qu'il sème, c'est, comme dans la parabole du semeur, c'est certainement la parole. La parole qui annonce justement la venue du royaume. La parole qui annonce la vie éternelle. La parole qui annonce le pardon de Dieu. Et ce qui pousse, ce sont des gens transformés par cette parole. Ce sont des gens, pour reprendre ce que disait Fred tout à l'heure, qui sont nés de nouveau. Des gens qui sont devenus eux-mêmes une bonne semence. Ce que Jésus appelle les fils du royaume. Des gens comme vous, comme moi, sans mérite particulier, sauf d'avoir cru à cette parole. Nous sommes les enfants du royaume de Dieu. Les sujets de ce roi qui veut notre bien. Et le champ dans lequel nous nous sommes, c'est notre monde, sur toute sa surface, et aussi au fil des siècles. Nous sommes les fruits de l'ensemencement de notre monde par Jésus. Et comment est-ce que Jésus a ensemencé notre monde? Parce qu'il a parlé. Il a dit, nous avons vu dans notre texte, des secrets cachés depuis la fondation du monde. Et quels sont ces secrets cachés? C'est que Dieu parle. C'est que Dieu aime. C'est que Dieu tend les bras. C'est que Dieu est grâce. C'est que Dieu est amour. C'est que Dieu ne limite pas sa bienveillance à un peuple, Israël, mais ouvre ses bras pour toutes les nations. Voilà tous les secrets cachés, méconnus avant que Jésus en parle. Oh, si on fouille bien l'Ancien Testament, on trouve des allusions à tout cela. Et c'est Jésus qui est venu mettre le projecteur là-dessus. Il a ensemencé aussi notre monde par ce qu'il a fait. Lui qui a aimé les siens qui étaient dans le monde et qui les a aimés, non pas un petit peu, mais jusqu'au bout, nous dit l'évangile de Jean. Et dans ce qu'il a fait, il y a sa mort. Il a ensemencé notre champ par la mort qu'il a apportée. Et il avait éclairé déjà un peu ses disciples à l'avance. En disant, si le grain de blé qu'on a jeté en terre ne meurt pas, il demeure tout seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Voilà l'ensemencement de Jésus. Alors la question se pose tout de suite, et si la semence est si bonne, pourquoi ne remplit-elle pas tout le champ? Pourquoi pousse-t-il dans notre monde autre chose qui n'a aucune valeur? Une mauvaise herbe, livrée. Qu'est-ce que livrée? Est-ce que vous savez ce qui est livré à un autre monde?
La zizanie.
Oui. Livrée, ça s'appelle aussi la zizanie. Donc quand on dit quelqu'un sème la zizanie, quelqu'un sème l'ivraie, c'est exactement la même chose. Et est-ce que vous savez qu'il y a des mêmes mots que de la même racine que ivraie? Ivresse. Ivresse, ça vient de l'ivraie. Et le mot un peu plus long, mais ébriété, qui a à peu près la même signification que ivraie, vient du mot grec ivraie. L'ivraie, c'est une graminée, je vous ai mis une photo, qui pousse, c'est donc une graminée comme le blé, le seigle, l'orge, elle pousse au milieu des moissons, au milieu des blés, et sous tous les climats. Alors, quand on est à maturité, vous voyez que c'est assez différent. vous pouvez voir ce qui se passe quand vous avez des céréales et du blé mélangé. L'état de notre monde. Donc, nous avons un champ avec du blé et de l'ivraie mélangé, deux plantes qui se ressemblent et qui n'ont pas les mêmes propriétés. Comment est-ce possible? C'est l'interrogation que posent les serviteurs. Qu'est-ce qu'on pose les serviteurs? Mais Seigneur, tu ne vas pas semer du bon grain, non, franchement, et comment ça se fait qu'il y a aussi de l'ivraie qui pousse? C'est aussi la nôtre, parfois. Ils en ont. Comment se fait-il que notre monde est tellement rempli de mal? C'est aussi celle que nous entendons souvent. Les moqueurs, les sceptiques, dis non, ton Dieu, le Christ-Bon. Comment ça se fait si vraiment Dieu existait? Comment? Vous avez tous entendu ça, je suppose. Pourquoi pourrait-il permettre des choses comme ça? Pourquoi y a-t-il tant de mal dans le monde? Et nous pouvons constater, comme les serviteurs du maître, que notre monde abrite tant de haine, de lutte pour le pouvoir, de lutte pour l'argent. Vous avez remarqué d'ailleurs que ceux qui luttent pour l'argent, en général, sont ceux qui en ont déjà beaucoup. Et que notre monde est comme empoisonné, gangréné par le mal, par le péché. La réponse du maître est claire. Cela ne vient pas de moi, dit le maître. C'est un ennemi qui a fait cela. Et la Bible nous apprend qu'à la création de Dieu, à l'origine, tout était parfait, tout était bon. Et Dieu dit, après sa création, après chaque étape de sa création, Dieu dit, c'est beau, c'est bien. Mais elle nous révèle aussi, la Bible, l'existence d'un ennemi, l'existence du diable, séducteur et trompeur, dès le commencement. Il est l'ennemi de Dieu, l'ennemi de sa création, particulièrement des hommes et des femmes. Et c'est en s'attaquant aux hommes et aux femmes qu'il a commencé son œuvre néfaste dans l'humanité en séduisant Adam et Ève. Et vous savez, vous pouvez relire dans Genèse 3 comment est-ce que Satan a fait. Alors, il a commencé déjà par mettre le doute, semer la zizanie dans l'esprit de l'être. Dieu a-t-il réellement dit? Voilà ce qu'il va dire à elle. Ton Dieu, là, il t'a dit, il a vraiment dit que tu ne pouvais pas manger de tous les arbres là. Et puis après, il y a le stade d'après, la contradiction directe. Dieu dit, vous allez mourir. Mais non, vous ne mourrez pas. Apocalypse 12, verset 9, présente le diable comme celui qui séduit toute la terre. D'autres passages nous disent qu'il est le menteur, le père du mensonge. Et Pierre, dans sa première épître, avertit les croyants contre votre adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Donc n'hésitons pas à l'affirmer, ça paraît rétro, ça paraît vieux jeu. Si notre monde va si mal, ce n'est pas Dieu qui en est responsable. C'est un ennemi qui a fait cela. C'est le diable qui a fait cela. Et on peut même ajouter qu'il le fait avec la complicité des hommes, une génération après. Il y a maintenant deux populations. Littéralement, dans notre texte, les fils du royaume et les fils du malin. Ceux qui ont confié leur vie à Christ, ceux qui sont, comme disait Frère tout à l'heure, mais il l'a dit parce que Jésus l'avait dit avant lui, ceux qui sont nés de nouveau, et ceux qui se laissent toujours influencer par le diable, le plus souvent sans le savoir, se croyant vivants, culottés par l'ennemi. Se croyant libres parce que se croyant libérés de Dieu. Est-ce que ce sont des gens spécialement mauvais et méchants? Non. Notre texte dit qu'il s'agit de ceux qui incitent les autres à pécher et qui font eux-mêmes le mal. Mais en fait, pour la plupart, ce sont aussi des victimes. Des victimes plus ou moins complices de celui qui les enchaîne. Paul écrit aux Éphésiens, au chapitre 2, il leur dit ceci. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances spirituelles, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Nous tous, nous étions aussi comme eux. Nous vivions selon nos désirs, selon les désirs de notre propre nature. Nous faisions ce que voulait notre corps et notre esprit. Ainsi, à cause de notre nature, nous étions destinés à subir le jugement de Dieu comme les autres. Pour reprendre notre image de parabole d'aujourd'hui, nous étions de l'ivraie. Nous étions de la zizanie. Mais la compassion de Dieu est immense. Son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. Deux populations. Ceux qui sont restés spirituellement morts, obéissant malgré eux à Satan, et ceux qui ont entendu la parole de vie, la semence de la compassion de Dieu qui nous permet de vivre. Alors, avec les serviteurs, nous pouvons nous poser la question, mais pourquoi, Seigneur, tu ne veux pas que nous les arrachions tout de suite? Non, je ne parlais pas de lui. Pourquoi pas d'arrachage immédiat? C'est ce qui semble le plus simple. Et Seigneur, on peut aussi te demander, pourquoi tu ne viens pas maintenant, là, enlever le mal qui est sur la terre? Maintenant, au lieu d'attendre. Que dit le maître du champ? Attendez, parce que si vous arrachez maintenant, vous risqueriez d'arracher le blé avec. Alors on peut se poser une question. On a vu que l'image était bien trouvée, parce qu'effectivement, ce sont deux plantes qui sont difficiles à distinguer déjà, et ensuite qui s'interpénètrent l'une dans l'autre. Mais spirituellement, pourquoi faut-il attendre? Je crois qu'il y a deux raisons au moins. La première, on l'a déjà vue. C'est que tous ceux qui sont maintenant du blé de la bonne semence, il n'y a pas si longtemps, ils étaient libres. Si Dieu avait arraché tout l'ivraie, ou fait arracher tout l'ivraie il y a 10 ans, mettons, que seraient devenus ceux qui ont depuis 10 ans donné leur cœur au Seigneur? C'est ce que Pierre rappelle dans sa deuxième épître, Dieu use de patience envers vous, ne désirant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. On pourrait paraphraser en disant ne désirant pas que vous restiez livrés, mais que l'ivraie se change en bon grade. Parce que notre parabole nous donne une image un peu simplifiée, hein. Mais on sait bien que on ne devient pas bon grain comme ça de naissance. On le devient dans sa vie le jour où on a fait la nouvelle naissance. Et puis aussi, on peut dire que nous sommes à 100% du bon grain. Qui peut dire que le mal n'a aucune prise en nous? On chante un cantique de temps en temps qui, moi, me fait toujours frémir. flamme ardente brûler le mal qui est en moi. Et j'ai peur de me transformer en torche, moi, quand je chante ça. Un seul homme a pu dire, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. C'est Jésus. Mais nous avons tous en nous des attaches qui restent. Est-ce que si les anges arrachaient ce mal maintenant, est-ce que nous en serions, est-ce que nous en tirions un d'elle? Parce qu'on va dire qu'on va faire des efforts, hein, pour comment tu as dit tout à l'heure, aller vers l'esprit, tendre vers l'esprit, voilà. Et enfin, rassurez-vous, c'est la dernière réponse. À la fin des temps, lorsque tout sera arrivé à maturité, on pourra alors arracher les enfants, les sortir de terre. Et là, on retrouve nos deux populations, et là, il n'y aura plus de changement possible. Ce sera définitif. Nos deux populations livrées inutiles et néfastes et ramassées et brûlées au feu. C'est-à-dire que les anges du Seigneur viendront recueillir ceux qui ont continué à suivre Satan et ils seront victimes d'un châtiment, la fournaise ardente. Là aussi, c'est pas très populaire comme façon de dire de prêcher. Mais c'est ce que dit Jésus. Ça prend ça peut-être à un degré, une fournaise ardente. Il ne nous est pas dit qu'il y a des brûlures. Il nous est dit qu'il y a des pleurs et des regrets. Et peut-être que le châtiment sera simplement d'être loin du Seigneur et de le savoir et de le regretter. C'est pour ceci, dit l'épître de Jean, que le Fils de Dieu a été manifesté. Pour détruire les œuvres du diable. Oh, ça prend pas un peu de temps. Cela a commencé à sa naissance. Cela s'est cela a été. C'est passé par un point culminant au moment de la croix. Mais pour que les œuvres du diable soient complètement détruites, il faudra attendre la fin des temps. Mais ne minimisons pas. De ceux que le Seigneur a justifié, ils sont placés sous sa protection et ils resplendiront, dit le texte, comme le soleil dans le royaume de leur père. Et Jésus, quand il dit ça, il cite une phrase du prophète Daniel au chapitre 12, je vous la lis. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre. Pour la honte éternelle, ceux qui auront été intelligents, soyez intelligents, brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Moi, ça me plaît bien comme programme. Alors, la conclusion, que celui qui a des oreilles, je voudrais tirer quatre conclusions. La première, ne doutons pas. Ne doutons pas de notre Dieu. Dieu a semé de bonnes choses sur la terre. Le mal ne vient pas de Dieu. La deuxième chose, c'est ne donnons pas de prise. Le mal vient de Satan, c'est un ennemi qui a fait cela de Dieu. Même s'il y a la complicité des hommes, la complaisance des hommes, ne lui donnons pas de prise sur nous maintenant. La troisième, c'est de savoir que pour le moment, il est normal que le bien et le mal cohabitent et que cela permet à toujours plus de personnes de se tourner vers le Seigneur de devenir une bonne semence. À son temps et second, nous sommes nous-mêmes semences appelées à porter du fruit, appelées à faire naître d'autres germes, d'autres épis qui eux-mêmes porteront du fruit jusqu'au retour du Seigneur. Et un jour viendra où enfin le mal cessera et notre avenir sera glorieux.